Radio Okapi.
Les informations, Belinda Bosuma. Le gouvernement souminois sera investi d'ici le 11 juin en cours. C'est ce qu'annonce le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'a dit à la presse hier, à l'issue d'une audience lui accordée par le chef de l'État à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Deuxième et dernier jour ce mardi de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP dans toute la RDC. À Kinshasa, les effectifs des candidats ont augmenté de 5% d'après l'inspection générale de l'EPST. Pendant qu'au Nord Kivu, des absences sont signalées dans les zones en proie aux attaques des EDF, affirme le chef de la sous-division d'Oicha. Et puis, justement au Nord Kivu, les affrontements opposant les FARDC et alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis hier autour de Kanyabayonga. Cela dure depuis plus d'une semaine. Les casques bleus onusiens apportent leur appui dans ces combats afin de renforcer la protection des déplacés. Pour en parler, nous recevons le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, rassure l'opinion de l'investiture prochaine du gouvernement souminois d'ici le 11 juin. Il l'a déclaré hier lundi après l'audience que lui a accordée le chef de l'État à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Audience au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la bonne marche des institutions du pays. D'après le président de la Chambre basse du Parlement, la question de représentativité de la province du Maniema dans l'équipe souminois a été également abordée. Faisant foi aux assurances du président de la République, Vital Kamerhe annonce la reprise du Maniema au sein du gouvernement. Il l'a dit dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Et ça sera entre les 10 et les 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'OTAN, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne serai pas fait autrement, donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. M'a en tout cas rassuré que la province du Maniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques des maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement.
Le même jour hier, le président de la République a également échangé avec le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindwelo, ce dernier qui demeure à la tête du bureau du Sénat malgré l'élection d'un plus âgé que lui, a annoncé l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement dans plus ou moins 15 jours. Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, les affrontements opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis hier lundi autour de la cité de Kanyabayonga. C'est notamment sur l'axe Kilambo-Bulindi, ouest de la cité, dans le territoire de Rutshuru, ainsi que vers Maïsa-Filoubwe, dans le parc national des Virunga, axe Kanyabayonga-Ruindi. Le porte-parole militaire de la MONUSCO confirme l'appui des casques bleus dans ces combats. L'objectif, selon lui, est de renforcer la protection de la communauté locale déplacée qui est victime de ces affrontements qui viennent de durer plus d'une semaine. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa est au micro de Bernard Nyangi.
Les récents affrontements dans le territoire de Rutshuru avec l'offensive du M23 vers Kanyabayonga ont considérablement aggravé la situation sécuritaire et humanitaire. Les troupes de la force d'intervention de la brigade déployée à Kanyabayonga ont aidé les civils qui fuyaient les zones de combat. Le bataillon Malawit a escorté certaines personnes déplacées vers des abris sécurisés, a fourni des soins médicaux et a facilité le déplacement des civils de Kilambo, Mirangi et Kabanyoga vers Kirumba. En outre, ils ont effectué des patrouilles conjointes dans les environs de Kanyabayonga en coordination avec les troupes des FARDC afin de renforcer la protection des civils. Cette situation sécuritaire dégradante a nécessité le déploiement d'unités supplémentaires par la force d'intervention de la brigade. Ainsi, depuis le 30 mai 2024, le bataillon de réaction rapide népalais a été redéployé dans la zone pour renforcer la base opérationnelle permanente de Kanyabayonga. Le renforcement de la présence des casques bleus dans la localité de Kanyabayonga intervient dans le cadre strict de l'accomplissement de son mandat en protégeant les populations civiles et leur porter assistance. Au cours des derniers jours, le bataillon de réaction rapide népalais et le bataillon malawite ont poursuivi l'aide aux personnes déplacées, à coordonner leurs activités opérationnelles avec les FARDC et à renforcer leur position défensive.
Notez que la société civile de Bouito dans le territoire de Rutshuru plaide en faveur du déploiement des plus de moyens pour les FARDC afin de faire face à ces attaques rebelles, mais aussi d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des milliers de familles qui sont récemment déplacées à la suite de ces combats. Nord Kivu toujours, la gestion du village de Magogo situé entre les territoires de Beni et Lubero pose encore problème. Plusieurs cas d'arrestation des agents étatiques ainsi que des poursuites judiciaires contre les autorités locales sont enregistrées. La société civile Force Vive du groupement de Bassoa Madiwe interpelle l'autorité provinciale sur ce conflit qui risque de mettre à mal la cohésion sociale entre les habitants de ces deux territoires. Pour sa part, le chef du secteur Beni Mbau appelle la population au calme car une commission d'enquête est à pied d'œuvre pour statuer sur ce problème, affirme Léon Kakoulé. Il est joint par Marc Marofimbo.
Nous appelons nos habitants de Madiwe pour la calmer, en attendant que les décisions qui nous viendront des autorités compétentes puissent nous arriver. Parce que ça ne sert à rien de nous bagarrer alors que nous avons l'arrêté du gouverneur qui avait bien précisé que cette entité appartenait au territoire de Beni, secteur de Beni, au groupement Bassoa Madiwe, et que après, c'est pas des semaines, il y avait eu retrait de la signature du gouverneur pour cause l'institut géographique du Congo viendra pour établir si cette entité appartenait à quel territoire ou secteur et chefferie, des choses pareilles, groupement. Alors, avant que... Donc, cette institution géographique n'est pas encore venue, nous attendons.
Parlons à présent de l'examen de national de fin d'études primaires ENAFEP. Le lancement a eu lieu hier à travers la RDC et dans les pays consulaires. À Kinshasa, c'est le ministre provincial de l'éducation, Charles Mutamuntu, qui a donné le coup d'envoi. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Maman Sifa à Kinkole. Comparativement à l'année 2023, les effectifs des candidats ont augmenté de 5%, soit 3% chez les filles, selon le rapport de l'inspection générale de l'EPST. Reportage d'Étienne Lissumbu.
Tout joyeux, les élèves finalistes du cycle primaire se dirigent vers les centres des épreuves. À leur sortie des centres, certains racontent le déroulement de l'examen.
Les examens s'est passé bien. C'est ma bien parce que le jour que nous avions dû voir faire l'examen, j'avais peur.
L'examen était passé, on m'avait donné. C'était dur et puis quand j'ai eu, c'était facile. On m'avait demandé seulement les questions, là où les questions qu'on a enseignées depuis longtemps, depuis la première.
L'inspecteur provincial de l'EPST Kinshasa Plateau souligne les caractères gratuits de cet examen.
Les chefs d'établissement ont observé le mode d'ordre de l'instruction. Que personne ne peut demander quelque chose pour la passation de cette épreuve. À notre niveau provincial, nous avions pris toutes les dispositions utiles.
Ces épreuves de deux jours se clôturent ce mardi.
Du côté du Congo central, plus de 105 000 élèves finalistes du primaire participent à l'ENAFEP. 411 centres de passation de ces épreuves sont organisés à travers les trois provinces éducationnelles du Congo central. À Matadi, cet examen a été lancé au complexe scolaire La Colline par le directeur de cabinet de la ministre provinciale de l'éducation, ce en présence du maire de Matadi et des autorités du secteur de l'éducation, tant au niveau national que provincial. Dans son adresse, l'inspecteur principal provincial du Congo central a indiqué que grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, les effectifs de cette édition de l'ENAFEP sont supérieurs par rapport aux éditions antérieures. Nana Pluriche Mambo.
Dans toutes les trois provinces éducationnelles du Congo central, les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires se déroulent dans un climat apaisé. Le directeur des cabinets de la ministre provinciale de l'éducation a dans son mot félicité les autorités éducationnelles pour l'organisation. Christophe Bampaka.
Je remercie également nos trois provinces éducationnelles à travers leurs provinces et leurs IPP pour la qualité de l'organisation mise en place pour que les choses puissent se dérouler convenablement.
L'inspecteur principal provincial du Congo central 1 pour sa part loue l'effet induit de la gratuité prouvé par les taux de participation élevés à cet examen. Claude Kankoukande.
Nous avons enregistré 52 371 candidats, dont 26 130 filles cet effectif supérieur par rapport aux années antérieures est sans doute l'effet induit de la gratuité de l'enseignement primaire et c'est avec une participation équilibrée entre les filles et les garçons.
Ces premiers jours, les participants ont affronté la culture générale et les Français. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, l'examen national de fin d'études primaires a été lancé hier dans tous les centres des sous-divisions de l'EPST de Beni et Oicha. Quelques absences sont cependant signalées dans différents centres d'examen situés dans les zones en proie aux attaques des EDF, affirme le chef de la sous-division d'Oicha. Une vue globale avec vous, Sadiki Aboubakar.
Au moins 11 500 écoliers finalistes du primaire prennent part à l'examen de fin d'études primaires et ENAFEP dans la sous-division de Beni. Ces élèves sont éparpillés dans 36 centres organisés dans la ville. D'après Mathieu Roleng, chef de la sous-division de l'EPST Beni, des finalistes venus des écoles du quartier Sayo, victimes des récentes attaques des ADF, sont affectés dans des centres proches de leur quartier de refuge dans la ville. Du côté de la sous-division d'Oicha, une déperdition de 12% des finalistes par rapport au nombre d'inscrits est observée dans les 40 centres de passation d'examen. Enoch Kavia Vumusuba, chef de la sous-division de l'EPST Oicha, rapporte que ces absences sont enregistrées dans les centres de Mangina, Eringeti, Maimoya et Kaya. Inama, zone dans lesquelles les rebelles des ADF ont signé des attaques entre mars et avril dernier. Le centre Moussandaba de Mantumbi, récemment attaqué par des ADF, a été délocalisé à Mbaou, dans le territoire de Beni. De plus, un centre d'examen du territoire d'Irumu en Ituri fonctionne à Eringeti, dans la sous-division d'Oicha, Beni. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Notez que cette session de l'ENAFEP se clôture ce mardi. Autre nouvelle, au Kasaï oriental, clôture hier à Mbujimayi de la mission de la délégation du FONAREV, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et aux crimes contre la paix et la sécurité. D'après la chef de la mission, le but était de répertorier les sites des déplacés internes qui ont fui le phénomène Kamuina Sapu. Fifi Kandolo, chef de division chargée des partenariats et écosystèmes au FONAREV, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Le FONAREV, au travers sa direction générale, les départements des opérations, la direction études, enquêtes et évaluation, nous a mandaté de venir au Kasaï oriental en mission exploratoire des différents sites des déplacés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'incidents qui se sont déroulés en RDC, qui ont causé beaucoup de victimes. Dans le Kasaï central, il y a eu le phénomène Kamuina Sapu, qui n'a pas échappé aussi à la province du Kasaï oriental, donc dans le Grand Kasaï en général. Et donc nous sommes ici pour répertorier les différents sites où il y a les différents déplacés internes qui ont fouillé les phénomènes Kamuina Sapu. Nous avons pu identifier ensemble avec les services de la province autour des 16 sites et nous avons eu à visiter 6 sites. Dans ces sites, nous avons trouvé que les gens vivaient dans de conditions difficiles et ils sont en train de demander vraiment des réparations. Nous allons faire remonter tous les desiderata de ces victimes que nous avons eu à rencontrer.
Rendons-nous en Ituri. Des journalistes de 5 radios communautaires dotés de panneaux solaires par la MONUSCO ont bénéficié le week-end dernier d'une formation de renforcement des capacités à Bunia. Cette formation a porté sur l'écriture journalistique et la lutte contre la désinformation et le discours de haine. Elle s'inscrit dans le cadre de la transition de la mission onusienne. Son objectif, rendre plus professionnels les chevaliers de la plume dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Les participants sont venus des territoires d'Irumu, Djougou et Maagi. Isaac Remoyope était de la partie.
Une vingtaine de journalistes de Bunia, Kassigny, Mahagi, Davé, Baye de Commande ont été édifiés sur les règles de l'écriture radiophonique et les différents formats de traitement de l'information. Ils se sont également pliés à des exercices pratiques de prise de notes pour rédiger des brèves rendues lors des séances de présentation. Ils ont également été sensibilisés sur les dangers que représentent la désinformation et les discours de haine qui constituent une menace pour les vivre ensemble. Les participants saluent cette initiative qui va les aider à s'améliorer dans leur métier.
La formation de journée nous a appris d'examiner, de vérifier vérifier si les informations c'est vrai, parce que les informations que nous pouvons utiliser peuvent nous mettre en problème avec les autorités, les différentes communautés.
Donc je dois patienter, je dois en prendre du recul, vérifier l'information pour avoir une information fiable, exacte.
La chef de l'information publique de la MONUSCO en Ituri indique que cette formation est importante pour permettre aux bénéficiaires de progresser dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Liliane Nyacha.
Parce que c'est bien beau d'avoir plus de temps d'antenne, mais c'est encore mieux d'avoir des journalistes formés, capables de faire leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information dans les conditions professionnelles requises. Et c'est donc le sens de l'activité que nous avons organisée aujourd'hui.
Cette formation est l'un des volets du projet panneau solaire offert par la MONUSCO. Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Nigeria. Après une journée de grève générale, le gouvernement appelle les syndicats à poursuivre les discussions sur le salaire minimum afin de parvenir à une solution pacifique. En effet, la vie du pays est fortement perturbée, avec notamment une coupure du réseau national d'électricité et une perturbation du trafic aérien.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parle du soutien de la force onusienne au FARDC dans les affrontements contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Il revient aussi sur l'opération dénommée Chengong, lancée il y a peu par la force de la MONUSCO dans la région de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa est avec Bernard Nyangi.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Commençons d'abord par les opérations qui sont menées dans le cadre des affrontements entre les M23 RDF contre les FARDC. Que pouvez-vous nous dire du soutien qu'apporte la MONUSCO effectivement dans ce cadre-là?
Les affrontements entre le M23 RDF et les forces de la coalition des FARDC ont été signalés à partir du 27 mai 2024 dans la zone nord de Kabanyanga. En réponse, la MONUSCO a multiplié ses patrouilles de domination de zones de jour comme de nuit dans les environs de Kabanyanga afin de protéger la communauté locale déplacée qui est victime de ces affrontements. En raison de ces affrontements et de la détérioration de la situation sécuritaire, la brigade d'intervention de la force fournit un soutien aux personnes déplacées à travers la sécurisation d'itinéraires humanitaires et la protection des civils vulnérables et un soutien limité aux FARDC. Le bataillon Malawite de la MONUSCO effectue régulièrement des patrouilles de domination et de reconnaissance aérienne de la zone pour réagir rapidement à tout incident fâcheux. La force de la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Et du côté de l'Ituri, il y a une opération qui est en cours, dénommée Chang Gong, lancée depuis le 20 mai 2024. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir?
Le 20 mai 2024, la brigade d'intervention de la MONUSCO, en coordination avec les FARDC, ont lancé une opération conjointe dénommée Chang Gong. Cette opération conjointe a été lancée en réponse à la situation sécuritaire instable dans la province de l'Ituri afin de dissuader les activités des groupes armés ADF et d'empêcher tout autre groupe armé illégal la liberté de mouvement dans les zones situées entre Mbo, Masuku et Sambuku. Le 24 mai 2024, une réunion avec les principaux responsables locaux a été menée au village Mamove dans le but de gagner la confiance de la communauté locale pendant l'opération et d'intégrer leurs préoccupations en matière de sécurité dans la planification de l'opération. Dans ce cadre, la première base d'opération mobile a commencé ses opérations le 25 mai 2024. L'opération couvre l'AS Mamove, Samboke, ainsi que les AS Mbo, Masuku, Kudukudu, Mandumbi. Actuellement, la force de réaction rapide kenyane a été déployée à Mamove et jusqu'à présent, elle a mené plusieurs patrouilles conjointes de domination de zones et des opérations ciblées avec les forces de sécurité locales ainsi qu'avec le concours des principaux responsables locaux sur l'AS Mamove et Samboke. Elle a pris le contrôle de l'AS Mamove, Malimbo, Mululia, Sembobo pour assurer la protection des civils et dissuader les groupes armés de toute nouvelle activité criminelle contre les civils. Le 29 mai 2024, une autre patrouille a été envoyée sur l'AS Mamove, Maliajama pour la protection des civils. De jour comme de nuit, la situation sécuritaire de Mamove et Samboke est restée sous contrôle depuis le début de l'opération. La population locale de Mamove et les forces de sécurité locales ont été très coopératives avec la MONUSCO dans cette opération. Avec précision et détermination, les forces conjointes ont progressé avec pour objectif de démanteler l'emprise oppressive des combattants ADF et d'assurer un environnement sûr et stable pour toutes les populations locales. Mais au-delà de cette opération, l'engagement de la MONUSCO envers la population de la province de l'Ituri demeure permanent.
Et pendant ce temps, il y a une formation pour terminer d'ailleurs, que conduit le contingent bangladais au profit des jeunes leaders. Ça se passe à Bounia. Qu'est-ce que nous pouvons savoir à ce sujet?
Oui, monsieur, le contingent bangladais de la MONUSCO a pris l'initiative de former des jeunes leaders à Bounia sur divers aspects techniques et de développement des compétences. Deux programmes de formation sont en cours, l'une pour les conducteurs de véhicules poids lourds, qui a démarré déjà du 27 mai au 14 juin 2024, et l'autre sur l'entretien et la réparation des groupes électrogènes du 27 mai au 4 juin. Les cours ont lieu de lundi, mardi et jeudi. À l'issue de ces formations, les participants seront dotés de compétences précieuses leur permettant de fournir des services essentiels à leur communauté. Des représentants du directeur de la division de la jeunesse, des dirigeants du conseil de la jeunesse de Bounia ainsi que des dirigeants des organisateurs communautaires ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Cette initiative souligne le rôle crucial de la MONUSCO en RDC, non seulement en termes de maintien de la paix et de la sécurité, mais aussi en tant qu'acteur clé dans le développement communautaire et le renforcement des capacités des jeunes dans le contexte du désengagement de la MONUSCO. Par ces actions, la MONUSCO contribue à créer un environnement meilleur et plus stable pour les populations locales.
Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci.
Je vous remercie.
Le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO répondait aux questions de Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.